Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Derrière le rideau. Bonjour Fabrice, bonjour William,
bonjour Rebecca, auditeurs. Bonjour Fabrice.
Alors aujourd'hui, le studio est bien rempli. Nous allons faire une émission un peu spéciale, particulière parce que nous avons la joie d'accueillir parmi nous donc Jean-Baptiste Prunet qui, j'espère vous le rappeler, l'année dernière a fait deux émissions avec nous sur la musique dans le camp de Theresienstadt. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Rebecca, bonjour Fabrice, bonjour William.
Salut Jean-Baptiste.
Et aujourd'hui donc nous avons Bernard Gouet ainsi que son épouse qui viennent directement de Paris. Donc Bernard Gouet est donc le fils du compositeur Émile Gouet. Bonjour Bernard.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour,
bonjour Bernard.
Alors Jean-Baptiste, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Pourquoi nous avons la joie d'avoir donc Bernard Gouet avec nous aujourd'hui?
J'ai voulu profiter d'une occasion un peu exceptionnelle en fait, puisque dans le cadre du travail sur les musiciens interdits par les nazis au cours de l'année qui vient de s'écouler, l'année 2015, qui était l'année du 70e anniversaire de la libération des camps, on a considéré comme victimes des nazis aussi les victimes de guerre. Et parmi ces victimes de guerre, alors il y a un certain nombre de compositeurs qui n'étaient pas interdits par les nazis, qui étaient des compositeurs français, puisqu'on était encore en démocratie en France, dire juste avant l'invasion allemande. Et parmi ces compositeurs, il y en a un certain nombre de très importants, dont on parlera peut-être un jour, j'espère. Jean Alain, pour moi, j'ai une vraie dévotion pour ce musicien. Aussi pour Émile Gouet, donc qui est un compositeur très très particulier, dont on va parler aujourd'hui, qui fait l'objet de notre émission. Et dans le cadre de cette étude qui vient de se passer l'année écoulée, j'ai fait des recherches et j'ai été mis en contact avec Bernard Gouet, avec l'association des Amis d'Émile Gouet qu'il préside. Voilà. Et donc, j'ai rencontré un homme extrêmement affable et généreux de son temps et qui s'est donné pour mission d'assurer la mémoire de son père et l'héritage artistique de son père. Il m'a semblé important de pouvoir profiter de la présence du fils d'Émile Gouet parmi nous et de le faire venir pour avoir un témoignage quasiment direct de la vie du compositeur. Et donc, je me suis proposé de vous le faire connaître, que nous puissions l'interviewer ensemble et raconter l'histoire du compositeur Émile Gouet, mort pour la France en 1946. Voilà.
Donc Bernard, à propos de votre famille, parce qu'on va peut-être commencer par les origines de votre famille, est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
C'est très très simple en ce qui concerne les grands-parents paternels, les Gouet. Ma grand-mère a été directrice d'école normale supérieure de jeunes filles. Le grand-père était inspecteur général de l'enseignement. Donc deux personnalités de l'enseignement public. Mon grand-père a eu au total, si je puis dire, 4 enfants, 3 filles qui étaient institutrices ou professeurs, et un fils, Émile Gouet, qui était professeur. Il a épousé une fille d'ingénieur, des mines, qui était institutrice et qui a fait une licence à Paris, et dont la sœur était aussi dans l'enseignement. Il a eu un fils, il avait un frère, mais lui, il a mal tourné, il était ingénieur. Un jour, j'ai dit à ma mère que j'avais été mal conseillé parce que j'étais pas professeur, j'étais ingénieur. Elle m'a fait un peu la tête. Bon, j'ai eu un frère qui, lui, était journaliste et une sœur qui était médecin, chirurgien et pédiatre.
Donc, en fait, toute la famille tourne dans le milieu de l'éducation ou, pour les plus téméraires, dans le milieu des sciences.
Oui, en langue aussi, en lettres, en ce qui concerne le côté des femmes, du côté des Gouet, si vous voulez. Ma mère, science, sa sœur, lettres.
Donc votre père, donc Émile Gouet, en fait a fait la synthèse un petit peu de la famille, puisque il est devenu, il fait partie du corps enseignant français, dans les plus éminents. Parce qu'on va voir que dans sa carrière, il va finir sa carrière comme professeur en mathématiques spéciales au lycée Louis le Grand, professeur de physique-chimie. Mais en même temps, il est compositeur de musique. Donc il est enseignant, il est scientifique, et en plus, c'est un artiste. Alors, comment se fait la naissance artistique? Quel est son apprentissage musical?
D'abord, je voudrais dire une chose, c'est que je vais parler beaucoup de mon père quelquefois par oui-dire. dans la mesure où je ne l'ai quand même pas très connu, puisque il est parti en 1939, au moment de Munich, première mobilisation, revenu, deuxième mobilisation, prisonnier le fin juin 40 et libéré le mai 45. Pour décéder en décembre 46, c'est-à-dire que j'en parle par souvenir, par on dit et par document. Donc, comment est née sa vocation musicale? J'étais pas là, j'allais dire, enfin. Mais elle est née vers 15-16 ans. Sa mère l'a mis au piano. Et il était d'ailleurs au début tellement musicien qu'il avançait la pendule pour que quand elle lui disait va faire ta demi-heure de piano, il y ait la pendule pendant que maman était pas là, il avançait la pendule, ce qui est quand même bon, c'était pas un petit Mozart quoi.
Et une fois que le travail était terminé, il a reculé discrètement en arrière.
Je sais pas ce qu'il faisait, mais il devait être assez malin. Et puis vers 16 ans, comme il l'a fait lui-même, ben il a un petit peu basculé, je sais pas trop pourquoi, et c'est ses premières œuvres écrites, je ne sais pas ce qu'elles valaient, datent de ses 15-16 ans. Et il a toujours dit que s'il n'avait pas eu la musique, il serait devenu, je dirais un voyou, mais est-ce que vous voulez dire un voyou à l'époque? Je ne sais pas trop. C'est plutôt un dandy, vous voyez, un viveur, etc. Mais moi, j'ai une photo où je ris doucement parce qu'il est avec à 16 ans, il a un chapeau, un manteau, une canne, vous voyez, enfin très... très BCBG, très 16e siècle, 16e arrondissement à Paris. Mmh.
Sauf qu'il habitait à Guéret, c'est ça?
Alors, en fait, il est né à Châteauroux, parce que sa mère était à Châteauroux à ce moment-là. Son père, était donc inspecteur primaire dans la région. Il était à Limoges, où il a connu sa femme, parce qu'elle était aussi là, directrice adjointe de l'école normale. Et il a été... excusez-moi du terme, je dirais un peu poussé à quitter Limoges sous la pression de certaines personnes, peut-être un peu comme étant considéré comme, disons, je simplifie, comme anticlérical. Mmh. Donc on lui a dit, je crois qu'il y avait un secrétaire qui était auprès de l'évêque, qui a un peu conseillé au préfet de lui conseiller de quitter, d'aller plutôt à Guéret. Comme ça, il quittait un peu, je crois, le diocèse, etc.
Et progressivement, la famille va s'établir à Toulouse.
Alors,
il va faire son apprentissage musical au conservatoire.
Il vit longtemps à Guéret, quand même. Et oui. Après, il va passer son bac à Toulouse. Et c'est à Toulouse, il passe les deux bacs. Puis il fait une licence de sciences avec plus de certificats qu'il en fallait. Il fait un diplôme d'études supérieures, comme ça se passait à l'époque, sur le tambour.
Auprès du grand physicien Henri Boisse.
Exactement, c'est un des fils spirituels presque de Boisse.
Henri Boisse, qui est très étudié encore, qui est très respecté comme un physicien, qui a beaucoup travaillé sur le son, sur la physique du son, sur les instruments de musique. Je me souviens, je frayais par les laboratoires d'acoustique musicale à l'université Paris 6, et il y avait toutes les collections d'œuvres d'Henri Boisse à l'époque, et quelques chapitres assez marrants d'ailleurs dedans.
Et c'est à Toulouse qu'il s'était aussi inscrit au conservatoire, c'est-à-dire qu'il, dès ses 18-20 ans, il venait de faire des études scientifiques et des études musicales. Le conservatoire n'a pas été pour lui une réussite, il a eu un certain nombre de diplômes, si je puis dire, plutôt d'accessites. Et il n'est pas resté très longtemps parce qu'il ne voulait pas apprendre le catéchisme qui avait cours dans ce genre d'études.
C'est-à-dire les enseignements obligatoires, les dogmes des conservatoires.
Voilà comment on fait, on compose, voilà. Mais par contre, ils avaient monté, avec des copains de musiciens, ils avaient monté une assemblée de jeunes musiciens interprètes, et le premier concert qu'il a dirigé et auquel il a donné une œuvre, il devait avoir une vingtaine d'années. Je ne sais pas, je crois que je vous avais signalé la date exacte, mais c'est bien 1924.
Donc il fait jouer ses premières pièces avec ses amis étudiants.
Exactement.
À Toulouse. Et donc dans ses premières pièces, qu'est-ce qu'on peut retrouver par exemple, que l'on pourrait d'ailleurs faire écouter en extrait?
Il a composé, il a donné dès le début une symphonie en sol mineur.
Sol mineur, oui.
Il y a deux symphonies dont je n'ai pas, il y avait des quintettes, des
choses qui sont créées par l'orchestre des étudiants du conservatoire,
oui,
et par les professeurs du conservatoire.
Qui ont disparu maintenant, enfin je veux dire, j'en ai...
Il n'y a plus de traces de cette symphonie.
Il y a eu un thème qui a été repris une fois.
Donc on est en quelle année là? Il est né en 1904.
Il a 20 ans.
Il a 20 ans, donc...
1924.
1924. De cette période, on a retenu un exemple musical un peu plus tardif qui doit être composé en 1931, qui s'appelle Fantasmagorie et brouillard. Une pièce pour piano que moi je trouve personnellement magnifique, qui n'est pas sans rappeler Ravel, Debussy, même Jolivet, mais qui est plus tardive. Et donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on écoute cette pièce pour piano, qui est extrait des Pénombres pour piano, opus 3, et qui s'appelle Fantasmagorie et brouillard. Alors, juste rappeler que c'est Diane Andersen, la pianiste.
Vous venez d'écouter Fantasmagorie de brouillard, extrait des Pénombres, qui sont des pièces pour piano, opus 3 de Émile Gouët.
Par Diane Andersen au piano.
Sur cette petite note de musique, nous allons nous quitter et nous allons vous souhaiter une bonne journée. Et nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la deuxième partie de la vie d'Émile Gouët.
Au revoir Rebecca, au revoir
à
Fabrice.
Bientôt, au revoir.
Au revoir.
Au revoir cher public.